Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Avant toute chose, donc, je souhaite excuser M. Brutti-Liberati qui, pour une affaire de première importance, a dû samedi nous annoncer qu'il ne pouvait pas venir puisqu'il est... Il est à l'audience aujourd'hui et demain, une audience exceptionnelle. Et donc, mon collègue, qui est un juge italien, Gualtiero Michelini, qui, comme moi, est expert national détaché auprès de la Commission européenne, a accepté de venir au pied levé répondre à mon propos qu'il connaît en substance. Et donc, le fait qu'il vienne vraiment au dernier moment explique son retard à cette heure-ci. Son train avait 10 minutes de retard, mais je pense qu'il ne va pas tarder. Je voulais commencer mon propos par une image, parce que quand on tente de comparer les systèmes judiciaires, on a évidemment en mémoire le cinéma Witness for Prosecution avec Marlène Dietrich. On a aussi ce roman porté à l'écran de Tom Wolfe, le bûcher des vanités, avec cette situation où la justice, finalement, un peu l'otage des parties, est sermonnée in fine par un juge qui n'a d'autre choix que de renvoyer les parties, de prononcer un non-lieu, tout en disant que « the law is not the creature of the few or of the many ». Et je pense que cette phrase tirée du roman explique bien un petit peu la différence. Et le droit, au sens anglo-saxon, est une notion extrêmement large, extrêmement dynamique, qui ne peut pas se résumer à la loi telle que l'on peut l'entendre et telle qu'on la produit, aussi bien en France, sur le continent européen ou même dans certaines instances. Alors, le sujet est d'actualité, il est passionnant parce que, et un peu avec ma jeune expérience à la Commission européenne, je pense qu'on peut dire que nous vivons une révolution dans la construction du droit pénal européen au sens large, droit de fond, c'est-à-dire la définition des infractions et des sanctions, également de la procédure. Et pour bien comprendre un petit peu les forces qui s'exercent dans ce contexte, aujourd'hui à 27 États membres, avec chacun leur système, leur culture, je crois qu'il faut revenir très rapidement sur l'histoire de cette évolution. Le droit anglo-saxon, il a une racine commune avec le droit romain. Et la devise de la reine d'Angleterre ne dit rien d'autre. Hein. Dieu est mon droit, elle est en français et elle s'inspire d'une tradition romano-germanique que Guillaume le Conquérant a exportée au XIe siècle. La grande différence, c'est que les institutions britanniques se sont construites dans la continuité, tout comme les institutions américaines qui, depuis plus de deux siècles, se caractérisent par cette stabilité d'une république fondée sur l'esprit des Lumières et prônant la séparation stricte des pouvoirs. Le droit britannique peut se résumer à travers la notion de common law par cette idée que certaines infractions ne sont pas définies par la loi. Par exemple, murder, l'assassinat, ou manslaughter, l'homicide involontaire, sont des infractions qui sont définies par le juge, par la common law depuis le XIVe siècle, et qui sont sanctionnées selon un régime de peine qui lui-même n'est pas forcément défini par la loi au sens textuel où nous l'entendons en Europe. Cette idée pourrait heurter les continentaux que nous sommes, attachés au principe de l'égalité des délits et des peines, qui est que chaque infraction, chaque sanction doit être prévue par la loi. Et là où cette différence finalement se retrouve, c'est que la common law, c'est un ensemble juridictionnel, c'est un ensemble de normes qui a une existence consacrée, vivante, mais qui a cette rigueur, cette stabilité qui lui donne toute sa présence. Donc Gualtiero qui nous fait vraiment la gentillesse d'arriver au vrai pied levé à la descente du train de Bruxelles. Au Royaume-Uni, le droit pénal n'a pas tout à fait la même place, à mon sens, qu'en Europe continentale. Cela ressemble plus à une immixtion exceptionnelle de l'État dans le rapport entre les individus, c'est-à-dire, finalement, lorsqu'il y a une violation des normes, qu'elles soient contractuelles ou extra-contractuelles entre les individus, eh bien, il peut y avoir l'immixtion de l'État, et encore avec des réserves et des limites, qui justifient une réponse qui est de type répressif, c'est-à-dire la recherche et application d'une sanction. Le Royaume-Uni, les États-Unis se sont développés dans la continuité. L'Europe s'est développée dans la confrontation et dans la rupture, et depuis la Révolution française. Les idées des Lumières ont été introduites de manière brutale par les révolutionnaires, propagées sur le continent. Et en même temps, à un moment donné, lorsque la Révolution est devenue bourgeoise, il a été sans doute temps pour Napoléon de faire une synthèse entre l'Ancien Régime et les idées des Lumières. C'est ainsi que la Révolution, par défiance à l'égard des parlements, c'est-à-dire des tribunaux d'Ancien Régime, avait fait interdiction aux juges de connaître des actes administratifs, ce qui justifie aujourd'hui nos deux ordres juridictionnels, l'ordre judiciaire et l'ordre administratif, avait prévu des appels tournants, avait aboli les brevets au nom de l'abolition des privilèges, et donc une rupture assez radicale qui n'était pas forcément en phase avec la société. Le droit pénal et la procédure pénale, sans doute la procédure pénale est une matière hautement sensible parce qu'elle détermine les pouvoirs de l'État, la possibilité d'avoir recours à des actes coercitifs, est un élément qui, au fil de son évolution, va traduire ce rapport à distance entre le droit continental et la common law. Un exemple, le juge d'instruction qui a été réintroduit par Napoléon en contrepoint des excès du procureur sous la terreur rappelle le lieutenant du roi. On parle aujourd'hui de le supprimer, alors que parfois chez les anglo-saxons et notamment chez les écossais, l'idée de le réintroduire fait jour. Au niveau européen, le droit pénal s'est propagé à la faveur de mouvements sociaux, de révolutions qui ont agité le continent au XIXe siècle et qui ont donc permis à des systèmes politiques d'évoluer. Au-delà de ces évolutions qui marquent vraiment entre un Royaume-Uni relativement replié sur lui-même et son empire, entre des États-Unis qui se consacrent essentiellement à la conquête de leur deuxième frontière, celle de l'Ouest, et une Europe qui est en proie à des incendies, les rapports sont assez limités. Et lorsque, à l'issue de la Première Guerre mondiale, l'idée de poursuivre pénalement Guillaume II pour crime de guerre, c'est-à-dire d'avoir envahi un pays neutre comme la Belgique, pour avoir violé les lois de la guerre en envahissant la Belgique sans déclaration de guerre préalable, etc. Cette tentative va échouer dans un premier temps, mais elle servira de base de réflexion pour l'émergence d'une justice pénale internationale à la fin de la Seconde Guerre mondiale, avec l'accord de Londres instituant le tribunal de Nuremberg qui jugera les criminels nazis. Et cette justice pénale internationale, elle va jouer un rôle très très important pour comparer des systèmes judiciaires, parce que forcément, siège à ce tribunal américain, britannique, français et soviétique. Et donc, il va falloir s'entendre sur les règles de procédure. Et de fait, ce sont les règles de procédure anglo-saxonnes qui vont prévaloir, qui vont d'ailleurs permettre à cette juridiction de donner une publicité absolue à ces débats et qui vont permettre aussi de diffuser des principes, des concepts propres à la procédure pénale dans un système anglo-saxon. Un de ces principes, que l'on retrouve d'ailleurs à travers les jurisprudences européennes, c'est l'idée que la justice ne doit pas simplement être rendue, elle doit donner l'impression d'être rendue. Et cette notion est très importante parce qu'elle va au-delà du formalisme de la norme. Il ne suffit pas de simplement respecter la norme, il faut montrer qu'au-delà de cette norme, au-delà de la règle de procédure qu'on a appliquée, on a respecté le concept même de justice à travers des notions comme un procès équitable ou l'égalité des armes. Cette justice pénale internationale, elle va se développer. Elle va se développer avec la Convention européenne des droits de l'homme, signée en 1950, qui est une convention du Conseil de l'Europe avec sa cour à Strasbourg, qui est une cour qui a développé des principes directeurs extrêmement importants à partir d'un texte fort simple. Des principes directeurs d'ailleurs qui vont souvent au-delà de l'esprit sans doute ou des idées qui avaient prévalu à la rédaction de cette convention. Je vous donne deux exemples. L'article 3 sur la prohibition de la torture et des traitements inhumains qui aujourd'hui sert de principe directeur aux conditions de détention. Et c'est à l'aune de cet article 3 qu'un certain nombre de requêtes de particuliers détenus sont examinées. L'article 6 sur le droit à un tribunal impartial et indépendant a donné lieu à une très abondante jurisprudence. Et encore aujourd'hui, dans ce rapport de force que vous n'ignorez pas sur l'accès à l'avocat pour toute personne suspecte ou accusée, eh bien, cette jurisprudence joue un rôle directeur extrêmement important. Il y a également la justice internationale de la Cour pénale internationale, issue de la convention signée à Rome en 1998, et qui commence à se mettre en place. Et vous avez sans doute, en suivant l'actualité, vu que des mandats d'arrêt internationaux sont délivrés et sont susceptibles d'être amenés à exécution, donc de donner une réalité substantielle à cet instrument. Cette évolution, elle est très importante, mais elle n'est pas déterminante. Il y a aussi les rapports entre les États, les rapports entre les praticiens, les rapports entre les juges. Et c'est dans ces conditions que les systèmes se sont confrontés, influencés au hasard de leurs échanges. Moi-même, en tant que magistrat, j'ai eu l'occasion d'expérimenter cette entraide judiciaire, de me déplacer dans d'autres pays. Et donc, à la fois d'être le témoin des rapports entre les institutions judiciaires, d'en être un acteur en essayant de favoriser ces démarches, d'obtenir des résultats pour que mon dossier d'un côté ou le dossier d'un collègue étranger puisse avancer. Mais la question que l'on se pose toujours, parfois face à ces lenteurs de la loi que Shakespeare aime bien stigmatiser dans Hamlet, c'est sont-elles compatibles ? Et au-delà de la compatibilité, c'est le sujet de ce soir, un tantinet provocateur, c'est la possible harmonisation. Alors, je crois qu'il y a deux grandes tendances, et je vais essayer de les passer en revue dans le peu de temps qui nous est imparti, mais je pense que la discussion nous permettra d'aller plus loin. D'abord, les divergences, parce qu'elles existent, et parce que, justement, elles appellent le besoin d'harmonisation. Et puis ensuite, les forces de convergence peuvent nous laisser entrevoir des perspectives d'harmonisation. D'abord, les divergences, elles sont de plusieurs natures. D'abord, le rapport à la loi, je pense, je l'ai dit tout à l'heure, est différent entre le continent européen, le Royaume-Uni et les États-Unis. La notion de droit et de loi n'a pas le même sens au plan sociologique, je pense, entre ce que nous connaissons en France, en Europe continentale, et ce que les anglo-saxons perçoivent du droit. Par ailleurs, il y a vraiment des différences substantielles qui déterminent les rapports entre les parties ou entre les institutions. Par exemple, le fait que l'action publique n'est pas disponible, ce n'est pas quelque chose qui a priori se négocie ou dont on peut librement disposer, alors que chez les anglo-saxons, le procès reste avant tout la chose des parties. Et si la procédure britannique a un petit peu évolué, on a quand même cette notion d'égalité des armes qui fait que jusqu'à 1995, le procureur était un avocat choisi par la couronne pour représenter les intérêts de la couronne et défendre ses intérêts à armes égales avec la défense. Et ça, c'est une différence qui est encore importante. Et le fait que le procureur est une partie à la procédure, évidemment, alimente des interrogations ou des débats, parce que en France, le procureur est sous l'autorité du ministre de la Justice, ou parce que dans d'autres pays, c'est une institution indépendante, mais ça reste une institution dotée de prérogatives institutionnelles, constitutionnelles, tout à fait particulières. Il y a Également le rôle du juge, qui est plus important, plus actif, plus dynamique, plus intrusif dans les systèmes de droit continental, alors qu'il a cette neutralité silencieuse dans la plupart des cas dans les pays anglo-saxons. Il est là pour arbitrer les débats, résoudre des questions de droit. Cette neutralité, en tout cas cette impartialité, peut-être dans certains cas, ne sera pas neutre. Lorsqu'il y aura, à mon sens, un déséquilibre, une inégalité entre les parties. Il y a également cette différence qui découle de ce que je viens d'expliquer sur l'administration de la preuve. Dans un système où le procureur de la République a l'exercice de l'action publique, c'est-à-dire la capacité d'engager des poursuites, il dirige l'enquête, il réunit des éléments, il saisit le tribunal, il soutient l'action publique et il ramène la peine à exécution. Donc il est au centre de la chaîne, il est ce centre névralgique qui va donner à la réponse pénale toute sa logique, alors que dans un système anglo-saxon, il n'est qu'une partie poursuivante avec ses moyens, de même que la défense sera une autre partie avec ses moyens, et chacun viendra débattre des preuves devant le juge. On peut citer encore comme autre différence le recrutement, le statut des magistrats, la place du juge qui sans doute est différente chez les anglo-saxons et en France. Et d'une certaine manière, je crois que quelqu'un comme le juge John Stevens, qui a été juge à la Cour suprême de 1975 à 2010, c'est-à-dire pendant 35 ans, qui vient de terminer sa carrière à 91 ans, qui a eu une carrière à la Cour suprême, qui équivaut quasiment à la carrière d'un magistrat français, c'est-à-dire pratiquement 40 ans uniquement à la Cour suprême, et qui a pesé sur l'avortement, sur la peine de mort, sur la détention d'armes, donc sur des questions qui ont une valeur constitutionnelle pour les Américains, et quelqu'un qui, aujourd'hui, quand on regarde un petit peu la manière dont son travail est analysé, se situe au-delà des partis et a joué un rôle fondamental dans l'équilibre des pouvoirs aux États-Unis entre l'exécutif et le législatif. Il y a donc la Cour suprême qui joue un rôle tout à fait essentiel. En Europe, on a plutôt la notion d'une division, et notamment en France, d'une division des institutions judiciaires, puisqu'on pourrait pratiquement donner l'étiquette de Cour suprême à la Cour de cassation en matière judiciaire, au Conseil d'État en matière administrative et au Conseil constitutionnel, qui, avec maintenant la question prioritaire de constitutionnalité, a un dialogue direct avec la Cour de cassation et le Conseil d'État, et donc est en train de changer les lignes. On l'a vu en matière de garde à vue. On voit bien que les rapports sont en train d'évoluer, mais en même temps, on a cette division. Si je reviens à la notion de justice pénale internationale, elle a aussi un impact dans la manière de diriger l'État. Et je crois que les événements qui se sont déroulés dernièrement, notamment en Libye, démontrent que le rapport à la loi dans l'engagement, dans la mise en œuvre d'opérations militaires est quelque chose qui est de plus en plus évalué au regard d'enjeux judiciaires, juridiques et judiciaires, qui est quelque chose de nouveau et qui marque encore une différence entre le droit anglo-saxon et le droit continental. Entre nos deux systèmes, il y a encore des aspects divergents qui sont très importants. D'abord, dans le domaine de la procédure, l'administration de la preuve, je vous l'ai indiqué, est radicalement différent. Principe de l'égalité des preuves d'un côté, principe de liberté de la preuve de l'autre. L'expertise, le rôle de l'expertise, qui est si important dans toute procédure, n'est pas du tout la même. D'un côté, elle est la chose des parties. De l'autre côté, en France et sur le continent, elle est avant tout une décision judiciaire, un mandat judiciaire, avec pour l'expert un rôle particulier et donc un impact sur la solution du procès tout à fait particulier. Il y a également le rapport aux droits fondamentaux qui peut évoluer. Notamment, on l'a vu, la notion de liberté d'expression constitue dans les rapports entre dans les rapports de coopération entre l'Europe et le Royaume-Uni ou entre l'Europe et les États-Unis, une question délicate. On le voit sur s'agissant de la cybercriminalité, la manière de traiter les infractions sur Internet ou en relation avec des systèmes automatiques de traitement de données. On a un droit qui évolue très rapidement et on a des réponses qui, sur le plan pénal, sont encore très, très différentes. Sur le fond, sur le droit pénal de fond, il y a également des divergences qui sont des définitions qui peuvent être différentes, des sanctions qui peuvent être différentes et une manière d'administrer l'institution judiciaire qui peut évoluer. Pour les acteurs politiques, économiques, ces différences peuvent poser des problèmes parce que la manière de se situer comme acteur sur un marché ou sur un autre peut évoluer, peut être différente en fonction d'un contexte juridique. On voit ces différences à travers un exemple, et il n'est pas des moindres puisqu'il concerne quand même la défense de la démocratie, c'est la lutte contre le terrorisme. En France dans les États continentaux, on a privilégié une réponse judiciaire, renforcée, mais en privilégiant comme moyen de l'action de l'État la sanction, la poursuite, le jugement et la sanction des actes de terrorisme définis selon un principe finalement de droit commun. Lorsqu'il s'agit d'infractions graves aux États-Unis, il a été nécessaire de recourir à des commissions militaires, d'ailleurs, qui ont été annulées par la Cour suprême et qui montrent bien deux conceptions différentes. La défiance à l'égard finalement d'un système judiciaire, l'américain en particulier, à traiter des procédures aussi complexes. Et je crois qu'il y a encore une différence, c'est pas forcément la gravité de l'infraction, c'est pas forcément le nombre de victimes qui est déterminant, mais c'est bien la complexité à mener sur la durée des investigations et les porter à leur terme pour les juger. Voilà un petit peu rapidement les divergences. Je voudrais évoquer les forces de convergence parce que l'harmonisation, c'est une dynamique, je pense, et c'est une nécessité à la fois pour les citoyens et pour les praticiens. Cette harmonisation, elle prend racine à la fois dans le droit matériel, c'est-à-dire la définition des infractions, des sanctions, dans les règles de procédure et dans les instruments qui permettent la coopération, c'est-à-dire de faire en sorte, si possible, que le juge de Lyon et le juge de Milan coopèrent, travaillent main dans la main, comme le juge de Lyon et le juge de Clermont-Ferrand. Alors parfois, celui de Clermont-Ferrand ne travaillera pas forcément de la meilleure manière avec celui de Lyon, ce qui laisse présager que l'on peut faire aussi bien, voire mieux, avec un collègue étranger qu'avec son voisin. Mais l'idée, elle est là, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait plus de frontières, de même qu'il n'y a pas de frontières dans la circulation des personnes, des biens ou des capitaux. Alors, bien sûr, on part de très loin. On part du principe fondé sur la réciprocité. Je demande l'entraide et peut-être que je l'obtiens sur le principe de la réciprocité si une autorité judiciaire accepte de m'aider. On est passé ensuite à la reconnaissance mutuelle, c'est-à-dire je réponds à une demande comme si c'était une demande nationale. Et je pense que aujourd'hui, il faut commencer à réfléchir à la notion d'intérêt mutuel, c'est-à-dire je traite une demande ou je traite une procédure, non seulement en ayant le souci de l'action publique au niveau national, de l'intérêt général au niveau national, mais aussi en ayant la notion que cet intérêt national, il participe d'un intérêt plus général, d'un intérêt européen, et que nous avons donc tous un intérêt à travailler ensemble, parce qu'un jour, on sera en demande, l'autre jour, on sera sollicité pour exécuter. Il y a d'abord une influence des systèmes. Nos législateurs ne sont pas repliés sur eux-mêmes, ils ont des échanges et il y a un certain nombre d'institutions. Le plea bargaining, c'est-à-dire la possibilité de négocier une peine, vous le savez, existe maintenant en droit français. C'est la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, c'est une innovation majeure qui est particulièrement utilisé d'ailleurs en matière économique et financière parce que ça permet sur des affaires de concilier un certain nombre d'intérêts, l'absence de publicité des débats, une instruction rapide et puis finalement d'avoir une décision
qui soit entérinée assez rapidement et un retour à l'ordre qui soit simplifié. Les forces de convergence, elles sont issues de la justice pénale internationale, de manière encore marginale des tribunaux comme, enfin des juridictions comme le tribunal pour l'ex-Yougoslavie, pour le Rwanda, la Cour pénale internationale qui commence un petit peu à se développer et qui ont développé des étalons judiciaires, c'est-à-dire à travers leurs règlements de procédure, des normes standards particulièrement élevés qui pouvaient servir d'étalons aux législateurs nationaux. Il y a la Cour européenne des droits de l'homme qui a une jurisprudence extrêmement dynamique, active, qui a conduit à la fois les juges nationaux à s'emparer de la Convention européenne pour l'appliquer en droit interne et le législateur pour modifier et pour moderniser les législations. Il y a la Cour de justice des communautés européennes qui, depuis le traité de Lisbonne, un petit peu avant, elle s'était emparée du sujet, mais qui aujourd'hui, parce que l'espace de justice, de liberté et de sécurité maintenant fait partie du droit communautaire, c'est-à-dire du premier pilier, enfin il n'y a plus de pilier, donc c'est pour ça que je dis du droit communautaire, et donc elle est amenée à évoquer des notions de droit pénal. Dernièrement, elle a rendu une décision sur le principe nebis in idem, c'est-à-dire nul ne peut être jugé et condamné deux fois pour la même infraction, qui s'apparente à une harmonisation de cette notion, qui était appliquée différemment entre les États membres. Voilà pour les juridictions. Et puis, justement, du fait de l'évolution des traités, progressivement l'immixtion de l'Union européenne dans le champ du droit pénal, eh bien, nous avons évolué vers une harmonisation renforcée, parce que c'est un intérêt commun essentiel. La libéralisation des échanges entraîne des comportements qui portent atteinte au marché, aux citoyens, et donc il était nécessaire d'harmoniser dans un certain nombre de domaines, pour des infractions graves ou pour la fraude aux intérêts communautaires, avec des perspectives qui sont intéressantes en matière de fraude à la TVA, de droit de polluer, ou encore des atteintes à l'environnement. Et cette immixtion, elle est importante parce que il s'agit aussi, là encore, de rétablir une égalité dans le domaine de la concurrence. Si un acteur est en situation d'impunité parce qu'il pollue dans son pays sans problème, ou parce que depuis son pays, il peut polluer dans un autre pays à l'abri de poursuites, eh bien, il y a une rupture d'égalité avec les opérateurs qui, eux, investissent pour prévenir la pollution et les atteintes à l'environnement. Et donc, cette notion, y compris dans la vie économique, est, je pense, très importante. Sur le plan opérationnel, il y a un certain nombre d'institutions qui ont été développées, qui participent de cette harmonisation et qui sont très importantes. Le mandat d'arrêt européen, qui est une véritable révolution, qui est en œuvre depuis 2004 et qui permet de dire voilà, telle personne, je la veux maintenant et je peux l'obtenir, je peux obtenir son arrestation et sa remise en un délai très très court, où qu'elle se trouve en Europe, sans qu'on on excipe sa nationalité ou sans que l'on s'intéresse à la nature de l'affaire. La simple demande vaut demande d'arrestation, la simple diffusion du mandat vaut demande d'arrestation et va entraîner une exécution dans un délai très rapide. Eurojust a joué et il continue à jouer un rôle très important et nous avons dans cette salle un éminent représentant qui a été notre représentant national dans cette institution. Et puis, demain, c'est l'harmonisation dans le domaine des droits procéduraux, renforcer les droits procéduraux des citoyens pour renforcer la confiance mutuelle, renforcer les droits des victimes également pour mettre les citoyens sur un pied d'égalité. C'est également renforcer les règles de coopération pour simplifier, fluidifier, améliorer cette coopération. Et demain, puisque c'est dans le traité de Lisbonne, mais ça n'est pas encore consacré, nous devrons voir la naissance d'un service du procureur européen qui, à mon sens, devra incarner cette notion d'intérêt général, c'est-à-dire en étant au-dessus des États, au-dessus des juridictions nationales, pouvoir donner une impulsion dans l'engagement des poursuites au sein des différents États membres et donc donner une cohérence globale à la lutte contre des phénomènes qui, en particulier, sont transnationaux, ceux que j'évoquais, ou tous ceux liée à la criminalité organisée. Pour terminer, peut-être juste un petit point de vue de praticien. Dans la coopération avec les Britanniques ou avec les Américains que j'ai eu l'occasion de pratiquer, on a des approches qui sont très différentes. Ça peut très très bien fonctionner à partir du moment où on connaît bien les mécanismes, l'esprit qui prévaut au fonctionnement de la coopération dans ces pays-là. Avec les Britanniques, on peut avoir des réponses très rapides, très efficaces, à condition de se mettre à la place et de savoir ce que les autorités britanniques et le juge britannique voudra. Mais à l'inverse, si l'on ne se met pas un petit peu en cadre pour faire cet effort, eh bien, il n'y a rien à attendre. C'est peut-être une différence par rapport à certaines habitudes qu'on a sur le continent où il y a un esprit d'entraide qui fait que on va chercher des solutions au-delà du texte, au-delà des principes, simplement pour faciliter cette coopération avec les Britanniques. Quand ils n'ont pas d'intérêt à la coopération et lorsqu'ils pensent que ça n'est pas conforme à leurs droits et à leurs pratiques, eh bien, il n'y a rien à attendre. Les Américains sont un petit peu plus pragmatiques. La difficulté, c'est que c'est un très grand pays avec des systèmes, un système fédéral, des systèmes fédérés. Mais lorsque on fait l'effort également d'établir le contact directement, je l'ai vu en allant aux États-Unis, je l'ai vu en recevant des enquêteurs américains, c'est particulièrement efficace et cela démontre aussi que on peut travailler dans des très très bonnes conditions et qu'il n'y a pas finalement tant de différence que ça. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Je crois que je pense que cette harmonisation, elle n'est pas achevée. Aujourd'hui, on s'interroge un petit peu sur l'avenir de l'Europe. En tout cas, en matière pénale, je crois qu'elle est indispensable parce que elle n'est pas simplement nécessaire d'un strict point de vue de faire respecter la loi, de poursuivre des infractions, mais aussi elle a pour vocation de mettre les citoyens sur un pied d'égalité, c'est-à-dire qu'ils bénéficient des mêmes droits minimums entre les différents États, qu'ils bénéficient de la même protection et que les acteurs, quels qu'ils soient, notamment économiques, ne soient pas défavorisés par rapport à une situation type criminelle, d'infiltration des activités illicites qui pourrait engendrer un déséquilibre et donc affecter finalement la libre concurrence et les phénomènes de marché qui sont destinés à renforcer finalement l'Union européenne au service des citoyens. Je voudrais terminer avec une autre image. C'est celle de l'affaire O.J. Simpson. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette ancienne star du football américain qui a été poursuivie pour meurtre de sa femme et d'un de ses amis au début des années 90 et qui a été acquittée pénalement à l'issue d'un procès de 8 mois diffusé en direct sur les chaînes américaines et qui a été condamnée civilement pour ce même meurtre, enfin ces meurtres, condamnation qui l'a ruinée. Condamnation qu'il a ruinée parce que les dommages et intérêts qu'il a été amené à verser étaient absolument abyssaux. Outre le coût de la procédure pénale, ça avait fini de le ruiner. Et cette différence qui n'est pas si substantielle par rapport au droit pénal tel qu'on peut le connaître nous, est néanmoins révélatrice de cette différence aussi qui peut simplement résulter de l'image ou de la perception qu'on peut avoir de ce que doit être un système judiciaire ou de ce qu'est un système judiciaire en matière pénale.